RFI, 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Et Paul Longsaint-Spinelli, à la une de votre journal, la grâce accordée en Guinée à Moussa Dadis Camara, qui provoque l'indignation des défenseurs des droits humains.
L'ex-dictateur au pouvoir entre 2008 et 2009 est sorti de prison vendredi, juste après l'annonce de la grâce présidentielle par le général Mamadi Doumbouya. Il avait pourtant été condamné à 20 ans de prison en juillet dernier pour son commandement dans les exactions et massacres du stade de Conakry en septembre 2009, qui avait alors fait plus de 150 morts. Dans ce journal, vous entendrez la stupeur et l'incompréhension d'un responsable de la Fédération internationale des droits humains. Au Sénégal, un revers judiciaire pour le gouvernement. Mansour Faye, beau-frère de l'ancien président Macky Sall, avait été empêché par deux fois de sortir du territoire. Vendredi, la justice lui a donné raison et a déclaré qu'il pouvait circuler librement. Une attaque terroriste fait au moins 50 morts dans un camp militaire de l'est du Burkina Faso. Et puis le Front populaire ivoirien dénonce des irrégularités dans le fichier électoral à l'approche de la présidentielle d'octobre prochain. Une surprise générale, mais des réactions divergentes en Guinée à l'annonce de la grâce de Moussa Dadis Camara. La libération de l'ancien dirigeant en poste de 2008 à 2009 a été décrétée vendredi par le général Mamadi Doumbouya, l'actuel chef de la junte. En juillet dernier, Moussa Dadis Camara avait pourtant été condamné pour crime contre l'humanité dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 au grand stade de Conakry. Plus de 150 personnes avaient été tuées. À la Fédération internationale pour les droits humains, c'est la stupéfaction. Écoutez, Drissa Traoré, c'est le secrétaire général de la FIDH. Il est également avocat des victimes du massacre du 28 septembre.
C'est déjà une surprise et une incompréhension. Parce que beaucoup d'efforts ont été faits pour que le procès puisse se tenir. Un procès hors norme, un procès où la Guinée a montré que sa justice pouvait mener un procès de telle envergure. Une décision a été rendue et la responsabilité du capitaine Dadis Camara a été retenue pour crime contre l'humanité et aboutit juste après ça, alors qu'il y a des appels à une grâce. Pour nous, c'est une totale incompréhension et vraiment, nous ne comprenons pas qu'on puisse arriver à cette décision en ce moment, en tout cas précis. Nous comprenons que le chef de l'État guinéen, en prenant la décision que le gouvernement allait supporter l'indemnisation des victimes, voulait nous faire passer cette pilule-là, la pilule de la grâce. Nous pensons que également cette grâce vient mettre à mal et à néant tous les gros efforts faits aussi bien par les victimes, les organisations comme l'OGDH, AVIPA, la FIDH, pour lutter contre l'impunité. Et aujourd'hui, ça vient remettre en cause tout cela.
Drissa Traoré de la FIDH, interrogé par Pierre Firsion. Au Sénégal, la justice donne raison au beau-frère de l'ancien président Macky Sall. Après avoir été empêché de sortir du territoire sénégalais à deux reprises, Mansour Faye avait décidé de saisir le juge des référés à la chambre administrative de la Cour suprême. Et vendredi, le magistrat en charge du dossier a ordonné au ministère de l'Intérieur de le laisser voyager librement. C'est donc un revers pour les autorités politiques en place. Retour sur ces événements avec Juliette Dubois.
Mansour Faye, ancien ministre et maire de Saint-Louis, a été empêché à deux reprises de quitter le Sénégal. Le 10 mars, alors qu'il s'apprêtait à se rendre à Djeddah, il a été informé de l'existence d'une interdiction de voyage émise par une autorité supérieure, je cite, sans plus de précision. Quelques jours plus tard, il a de nouveau été empêché d'embarquer pour Abidjan malgré l'obtention de sa carte d'embarquement. Mansour Faye et ses proches ont dénoncé une entrave à sa liberté de mouvement et l'homme politique a saisi la justice pour contester ces interdictions qu'il considère comme arbitraires et injustifiées. Le beau-frère de Macky Sall dénonce un acharnement politique depuis plusieurs mois. Selon son avocat, Maître Sall, il ne fait l'objet d'aucune poursuite. L'avocat prend donc acte de la décision en sa faveur, estimant que la justice a fait son travail et qu'il avait le droit avec lui. Mais selon la presse sénégalaise, l'État a déjà introduit un recours pour contester la décision du juge des libertés. D'autres proches de l'ancien président Macky Sall se sentent persécutés par les nouvelles autorités qui ont lancé une reddition des comptes de l'ancien régime. Des responsables comme Farban Gom ou Moustapha Diop ont vu leur immunité parlementaire levée. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Dans l'est du Burkina Faso, une cinquantaine de soldats et volontaires pour la défense de la patrie ont été tués vendredi dans une attaque terroriste. Les assaillants s'en sont pris au camp militaire de la ville de Diapaga. Le bilan pourrait encore s'alourdir. Plusieurs soldats sont en effet toujours portés disparus, selon les sources des RFI. Hier, Diapaga a été prise pour cible par des tirs d'obus, d'après plusieurs témoins sur place. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali, regroupés dans l'Alliance des États du Sahel, vont instaurer un droit de douane commun de 0,5% sur les produits importés de pays non membres de l'AES. Une décision qui fait suite à la sortie des trois pays de la CEDEAO, c'était en janvier. Une liste qui recense les électeurs ivoiriens, cette liste est-elle vraiment fiable? La question, elle continue de se poser une semaine après l'ouverture de la phase de contentieux. Le Front populaire ivoirien, lui, pense déjà avoir la réponse. Le FPI dénonce en effet des irrégularités et remet en cause l'intégrité du fichier électoral. Lors d'une conférence de presse organisée samedi, le parti dirigé par Pascal Affine-Guessant a exigé un audit indépendant pour faire la lumière sur ce qu'il considère comme des anomalies pouvant porter préjudice à la transparence du scrutin présidentiel d'octobre prochain. Abdoulaziz Diallo.
Selon l'analyse menée par le FPI, plus de 6 millions d'électeurs, soit 70% des inscrits, ne disposeraient pas de toutes les informations requises sur leur identité, en violation de l'article 7 du Code électoral. Une situation qui, selon Apollos Dante, jette le doute sur la crédibilité du processus. Le vice-président chargé de l'économie internationale pointe également des cas de doublons estimés à plus de 223 000, ainsi que des situations jugées irrationnelles, comme des parents enregistrés avec un nombre anormalement élevé d'enfants. Le parti de Pascal Affine-Guessant estime que ces irrégularités compromettent la transparence de l'élection et réclame un audit indépendant du fichier électoral.
On ne peut pas aller à l'élection présidentielle avec cette liste sans rien faire. C'est vraiment un ingrédient pour faire une élection bâclée qui ne sera pas transparente ni démocratique. Alors, la conclusion qui s'impose, c'est qu'il faut un audit indépendant.
Du côté de la commission électorale indépendante, on rejette ces accusations. Une source proche de l'institution affirme, je cite, « Nous sommes dans la phase de contentieux. C'est le moment d'apporter des preuves montrant que ces personnes ne méritent pas d'être sur la liste électorale. » À la date du 26 mars, la CEI avait déjà enregistré plus de 2400 réclamations portant principalement sur des radiations, omissions ou corrections d'informations. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Les Gabonais, eux, iront aux urnes le 12 avril prochain pour élire leur futur président. Et certains d'entre eux ont déjà eu l'occasion de rencontrer les candidats hier pour le lancement de la campagne. L'ancien premier ministre d'Ali Bongo, Alain-Claude Billy Binzé, s'est rendu dans les quartiers pauvres de Libreville alors que le chef de la transition, Brice Clotaire-Oligui Nguema, réunissait, lui, ses partisans au stade de l'amitié de la capitale. C'est aussi à Libreville qu'Iloko Boussiengui a lancé sa campagne. Alain Simplice Bounguérès a quant à lui choisi Bifoun comme point de départ. Un deuxième casque bleu de la MINUSCA tué depuis le début de l'année. Un militaire kényan a en effet été abattu vendredi dans le sud-est de la Centrafrique d'après l'ONU. Il s'est fait piéger dans une embuscade en février dernier. C'était un soldat tunisien qui était décédé dans le nord du pays. Surfer sur Internet à haute vitesse, charger des sites web sans délai, c'est la promesse issue d'un accord inédit au Maroc. Les opérateurs marocains Inouï et Maroc Télécom ont officialisé leur partenariat pour développer le très haut débit 5G. L'objectif de cet accord, c'est aussi de raccorder un réseau de fibres optiques de bonne qualité. Cette annonce, elle intervient alors que le Royaume souhaite moderniser ses infrastructures en vue d'accueillir avec l'Espagne et le Portugal le Mondial 2030 de football. Les deux entreprises qui étaient jusqu'alors en concurrence ont fini par tomber d'accord après des années de conflit. Julien Clémenceau.
C'est Mohamed Ben Chaboun, nommé à la tête de l'opérateur historique fin février, qui aura réussi à enterrer la hache de guerre. Depuis plus de 5 ans, Inouï, détenu par le holding royal marocain, menait une offensive contre Maroc Télécom, coupable à ses yeux d'entraver son développement en refusant de partager certaines de ses infrastructures. En 2020, l'opérateur historique a été condamné par le régulateur à payer une amende, puis une astreinte, avant une nouvelle condamnation l'an dernier. Des sanctions lourdes, plus d'€1 milliard au total, qui ont terni la fin de règne d'Abdeslam Aizoun, emblématique patron de Maroc Télécom, pendant plus de 2 décennies. Avec l'annonce de cette alliance, Maroc Télécom, dont l'État détient encore 22%, obtient une révision à la baisse de sa dernière amende et accepte en retour d'abandonner son pourvoi en cassation. Les deux opérateurs ont convenu de créer 2 filiales détenues à parts égales, avec une enveloppe d'investissement de 400 millions d'euros, l'une pour développer les connexions Internet en fibre optique et l'autre pour construire et exploiter de nouvelles tours télécom.
Explication de Julien Clémenceau du service économie des RFI. Une célébration vieille de 500 ans qui perdure encore à Madagascar. Hier soir se déroulait à Antananarivo la fête du nouvel an malgache sur les hauteurs de la capitale, au pied du palais de la reine. Les festivités se sont ouvertes par un rituel de purification. Reportage sur place de notre correspondant Guilhem Fabry.
C'est avec les chants et danses traditionnelles du peuple merne que s'est ouverte la cérémonie du Taom Bao Bao Malagasy, le nouvel an malgache. Vêtus de leurs costumes royaux, les dignitaires sont venus allumer un feu de purification. Ce rituel doit être synonyme de renouveau dans les foyers pour le pays, explique Henri Ranjadzatouv, descendant de la famille royale merne.
Le feu, c'est la lumière. La lumière chasse la peur. Il chasse les mauvaises rancunes de notre cœur aussi. L'esprit maléfique, c'est ce qui était mauvais en nous l'an passé. Donc avec le feu, on s'éveille, on a la chaleur. C'est ça la philosophie.
Ces anciennes familles royales, qui conservent encore aujourd'hui une grande influence dans les affaires politiques et sociales, possèdent chacune des rituels spécifiques. Mais pour la deuxième année consécutive, elles ont choisi de fêter ensemble le Taom Bao Bao, une façon de symboliser l'unité des 18 ethnies qui composent le peuple malgache, explique la princesse Fenosour Atimamonga.
On ne peut pas avancer sans que nous soyons unis dans notre us et coutumes. Les jeunes doivent prendre l'exemple de ce que nous faisons, la tradition va se perpétuer. Tant qu'il y a un malgache vivant, ça ne disparaîtra jamais.
Hier soir, les dignitaires ont demandé à l'État que le nouvel an malgache soit déclaré jour férié pour entretenir cette tradition. Guillaume Fabry, Antananarivo, RFI.
Et les festivités du nouvel an malgache se poursuivent jusqu'à demain à travers les différents sites royaux de Madagascar. Je vous laisse en bonne compagnie avec Julien Coquel-Roem pour la fin des RFI Matin.
Merci Paul Lonsin-Spinelli et ce journal comme tous les autres sont à retrouver sur RFI.fr et notre application Pure Radio.